on en parle.
Tension.
Incompréhension.
Addiction.
Évolution.
Explication.
On en parle.
L'émission qui décrypte les phénomènes de société au sein de la jeunesse.
Tous les jeudis de 11h à 11h45.
Sur LFM.
11h sur LFM Radio 95.5. Vous êtes avec Jésus Zoumara pour On en parle, votre émission hebdomadaire qui décortique les sujets de société. Cette semaine, pour cette nouvelle émission, nous allons aborder la question de la précarité menstruelle. Dans le monde, près de 500 millions de femmes n'auraient pas les moyens de se procurer régulièrement des protections hygiéniques. En France, elles seraient plus de 1,7 million à se trouver dans cette situation. Ces femmes sont victimes de ce que l'on nomme pudiquement la précarité menstruelle, un terme qui désigne la difficulté ou le manque des personnes réglées aux protections hygiéniques et qui cache une réalité malheureusement face à laquelle notre société a très longtemps détourné le regard. En effet, longtemps tabou, cet enjeu a émergé dans le débat public grâce à des associations et des parlementaires qui l'ont mis sur le devant de la scène. Pourtant, la précarité menstruelle demeure une réalité à notre époque, et acheter des protections hygiéniques est encore un luxe que certaines femmes ne peuvent pas se payer. Selon un sondage réalisé par l'IFOP en 2019, 8% des femmes et des filles interrogées déclarent renoncer à changer de protection périodique autant qu'il le faudrait, faute de moyens. Autre chiffre intéressant, au cours de sa vie, une femme dépense en moyenne entre 8000 euros et 23000 euros en protection périodique. Et enfin, 130 000 jeunes françaises manquent régulièrement l'école, car elles sont dans l'impossibilité financière de se procurer des protections périodiques. En plus du risque sur la santé, la précarité menstruelle entraîne d'importantes répercussions psychologiques et professionnelles. Des répercussions plus insidieuses et généralement tues car entourées de honte, qui mènent parfois à la dépression ainsi qu'à l'exclusion sociale. L'accès aux protections périodiques constitue donc un enjeu de santé majeur, mais aussi un enjeu de solidarité et d'égalité des chances. Comment expliquer que l'accès à des protections périodiques constitue une source d'inégalité encore à notre époque ? C'est pour répondre à ces questions que nous recevons aujourd'hui Laurence Alavi, première adjointe à la mairie de Andrézy et déléguée à la santé, aux seniors, au handicap et à la solidarité. Mais nous recevons aussi Marie-Ange de Castro, responsable de communication à l'association Rider Family Life, et Sabrina Burny, trésorière de cette même association. Bonjour mesdames, comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Très bien, merci.
Bah écoutez, je suis ravi de vous recevoir sur le plateau dont on en parle pour répondre à cette question. Mais avant de commencer, j'ai envie de vous faire... Je vais vous proposer d'écouter une interview que j'ai réalisée avec Luce Clavry, l'une des fondatrices de l'association MAI, une association qui lutte contre la précarité menstruelle avec et surtout pour les jeunes. On se retrouve juste après pour prendre votre ressenti.
LFM Radio. 95.5.
Aujourd'hui, la précarité menstruelle, c'est effectivement une problématique beaucoup plus globale que la simple problématique financière, je dirais. Il se trouve que c'est effectivement l'un des facteurs majeurs, la problématique financière, mais nous, on définit la précarité menstruelle comme l'incapacité à gérer ses règles dignement par le manque ou la difficulté d'accès à des protections périodiques pour cause de précarité financière, comme je l'expliquais, ou aussi à cause du tabou des règles, puisque aujourd'hui, les règles dans la société, c'est une problématique de laquelle on ne parle pas, ou en tout cas, on parle de plus en plus récemment avec toutes les mesures qui tournent autour. Mais c'est un sujet qui est quand même très tabou, que c'est un peu, on va dire, comme on dit souvent les anecdotes qui reviennent, c'est on passe un tampon un peu comme on passerait un sachet de drogue parce qu'il ne faut surtout pas le montrer, etc. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, à cause de ce tabou des règles, la précarité menstruelle fait que, on va se retrouver dans une situation où on va pas pouvoir se fournir correctement en protection périodique par manque d'informations. Comme vous l'expliquez aussi, il y a aussi des maladies qui peuvent s'ajouter à ça, puisque du coup, il y a ce qu'on appelle l'endométriose, qui est une maladie qui touche aujourd'hui une femme sur 10, qui est une maladie en fait, ça fait des douleurs horribles, c'est une maladie qui est encore peu diagnostiquée, ou en tout cas il y a beaucoup. Et donc effectivement, quand on est atteint de règles douloureuses ou d'endométriose ou de ce qu'on peut appeler le syndrome des ovaires polykystiques ou toutes ces maladies qui gravitent autour des règles, ça rend encore plus délicat aussi la gestion des règles, puisque on va ajouter des médicaments pour pouvoir soulager les douleurs, éventuellement une bouillotte ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que la précarité menstruelle est un problème vraiment complexe qui va englober plusieurs aspects fait que c'est une problématique qu'il faut prendre dans son ensemble et pas seulement par un seul tenant.
Comment expliquer qu'à notre époque, la précarité menstruelle peut encore avoir sa place, sachant tous les combats que l'on mène justement pour lutter contre ce genre de précarité ?
Pas facile comme question. Je pense que c'est un sujet qui arrive récemment dans la société, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai que très souvent, quand on parle de précarité menstruelle, finalement, peu de gens connaissent ce terme. Et tant qu'on n'y est pas vraiment confronté, je pense qu'on ne réalise pas. Ça paraît quelque chose de normal d'acheter des protections quand on a les moyens pour du coup gérer ces règles. Mais en fait, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si évident. Et je pense que c'est quelque chose qui va au fur et à mesure évoluer, puisque bah, du coup, on l'a vu avec la ministre de l'Enseignement, Frédérique Vidal, qui a donc annoncé.
De retour sur LFM Radio. Alors, mesdames, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview que j'ai réalisée?
Elle est très intéressante parce qu'elle montre en effet que la précarité menstruelle n'est pas un sujet commun, on va dire, hein, puisqu'il n'est pas vraiment répandu dans la population, alors que c'est un vrai problème quotidien pour toutes les femmes et surtout, plus particulièrement encore, pour les jeunes filles. Parce que si les règles sont un sujet qu'on n'aborde pas comme n'importe quel autre sujet, c'est quand même très intime, privé, voilà. Ça dégoûte un certain nombre de personnes aussi. On ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est quand même grâce à ça qu'ils sont nés, mais néanmoins, c'est là une réalité.
On aura l'occasion justement de revenir sur cette question du dégoût, cette perception des règles.
Oui. Ça se demandait vraiment pourquoi. Mais en attendant, c'est vrai que pour les jeunes filles, c'est encore plus compliqué, puisque même entre elles, elles osent à peine en parler. Donc on en parle éventuellement à sa meilleure amie, et encore, en effet, sous couvert. C'est vrai que la serviette périodique de secours ou le tampon de secours, on se le passe secrètement au fin fond des toilettes du collège en espérant que même aucune autre fille ne soit présente. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une vraie difficulté à ce niveau-là, et même au niveau des femmes entre elles, pour en parler entre elles. Donc il y a vraiment quelque chose à débloquer là-dessus, ce qui permettra quand même d'avancer plus rapidement sur le sujet. Mais il y a quand même de vraies avancées, hein, parce qu'on se rend compte, bah, déjà, voyez, vous êtes un homme et vous faites un sujet sur les questions.
C'est ça, tout à fait.
Lorsqu'il y a eu des collectes, par exemple, sur Andrézy, en l'occurrence, hein, je parle de ce que je connais, ça a été fait par le CMJ, donc le Conseil municipal des jeunes, et il y avait autant de garçons que de filles, et les garçons n'avaient pas du tout l'air gênés d'être là, ils recevaient les personnes qui amenaient les serviettes périodiques ou les tampons, enfin n'importe. Donc voilà, on sent que dans les plus jeunes générations,
il y a une évolution,
voilà,
des mentalités,
une évolution, et voilà, ils ont l'air de bien comprendre qu'il y a une égalité entre les femmes et les hommes, et qu'elle est là aussi.
C'est ça. Mais on aura l'occasion de revenir sur cette question justement dans la deuxième partie de l'émission. Là, je vais vous donner la parole. Donc, Marie-Ange de Castro, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview?
Alors, moi, je suis absolument d'accord. C'est vrai que pour les jeunes filles, c'est encore très compliqué d'en parler. Nous, on est des femmes, on est un peu plus... on est plus matures, on est plus sûres de nous. Et déjà, on se rend compte, effectivement, que parfois, c'est, même entre femmes, c'est compliqué d'aborder le sujet. Donc, pour les très jeunes filles qui... ont pas forcément des parents, même une maman ouverte à ce dialogue-là, qui n'ont pas forcément de sœurs, par exemple, ça peut être la seule fille d'une fratrie. Ça va être très compliqué pour elle de pouvoir en parler, de pouvoir échanger sur le sujet, peut rencontrer, oui, des difficultés par rapport à ça. Après, c'est vrai, effectivement, on a constaté, nous aussi, avec les riders, on a procédé également à des collègues de produits féminins, hein, dans le cadre de la journée des droits de la femme. Et on s'est aperçu que beaucoup d'hommes participaient, des jeunes gens, des adolescents, garçons, hein, qui participaient, qui n'étaient pas gênés par ça. Donc il y a effectivement une vraie évolution. Et ce qui était très intéressant dans l'interview que vous venez de nous faire entendre, est-ce que les gens, dont les gens ne prennent pas forcément conscience, et j'avoue que moi-même, hein, ça vient de me faire un petit rappel, c'est qu'effectivement les règles, tout le monde n'a pas des règles qui durent deux jours et qui sont des petites règles, voilà, il y a des règles très abondantes, il y a des règles très douloureuses et il y a effectivement des problèmes de santé qui peuvent s'ajouter, il y a l'endométriose, ces médicaments supplémentaires pour contrer les douleurs qui sont des frais supplémentaires. Là, si on parle des étudiants, si on parle dans le contexte actuel, le contexte sanitaire actuel où des gens ont perdu leur travail, voilà, si les règles tombent en fin de mois, quand il nous reste 10 euros et qu'on doit manger, ça peut être très très compliqué.
Tout à fait, mais justement, ça me permet de faire un pied et je vais vous poser la question, comme ça on va permettre d'introduire parfaitement le sujet pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on entend par précarité menstruelle? Je vous donne la parole, Sabrina. Ou Marie-Rose, allez-y.
Alors la précarité menstruelle, moi, pour moi, ça reste la difficulté, pas à trouver les produits, puisqu'aujourd'hui ces produits se trouvent partout, hein, y a aucun souci, mais plus tout simplement les moyens financiers. Les moyens financiers, éventuellement, être bien informés. Les jeunes filles, elles n'ont pas Elles peuvent avoir des règles en étant quand même assez jeunes. Elles n'ont pas forcément de gynécologue. Elles vont pas forcément parler aux médecins de famille qu'elles connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. La précarité, en fait, pour moi, elle peut avoir ces deux aspects-là. Le côté manque de communication sur le sujet et le côté manque de moyens financiers pour obtenir ces protections.
Très bien, tout à fait. Laurence Salavi, c'est une définition que vous partagez ?
Oui, alors tout à fait, c'est la définition même. Il y a la précarité financière, il y a aussi la précarité, si je peux me permettre, morale. Il y a encore des familles où même des mamans ne préviennent pas encore leurs filles qu'un jour elles vont avoir leurs règles. Alors c'est vrai que des fois elles sont un petit peu prises de court parce que ça arrive un peu jeune, mais néanmoins si on en parle dès le plus jeune âge, si on se cache pas soi-même quand on les a ou quand on va acheter des serviettes périodiques et qu'on nous demande ce que c'est, voilà, ça aussi c'est un type de précarité. Alors c'est pas forcément celui dont on parle aujourd'hui parce qu'on est plus axé sur la précarité financière et les problèmes que ça engendre en fait pour les femmes qui ne peuvent pas se fournir en protection périodique, mais néanmoins, ça joue aussi.
Effectivement, tout à fait. Sabrina Burny, vous avez un avis sur la question ?
Oui, je pense que pour pouvoir comprendre aussi cette précarité financière, il faut bien avoir conscience que ce n'est pas un choix, mais un réel besoin pour les femmes.
Tout à fait, tout à fait. Et justement, ça me permet de faire un pont et de vous demander, on a déjà commencé à esquisser une partie de la réponse, mais quels sont justement les facteurs qui vont créer cette précarité chez les femmes ? Allez-y, Laurence, je vous sens.
Ce que disait ma voisine tout à l'heure, à savoir que quand vous arrivez en fin de mois et qu'il faut choisir entre manger et acheter un paquet de serviettes périodiques, la personne se pose malheureusement la question. Évidemment, on va manger d'abord, parce que manger, ça concerne toute la famille, et que les serviettes périodiques, ça ne concerne qu'une seule personne et qui va faire en sorte de s'en passer. Mais faire en sorte de s'en passer, c'est très compliqué. Donc, voilà. Donc, c'est un vrai, vrai problème. Quand il y a, en effet, plusieurs femmes dans une même famille, elles ont toutes leurs règles. Ça, c'est la nature qui veut ça. On n'y est pour rien. On n'a pas choisi. Et des fois, on aimerait bien que ça n'existe pas, croyez-nous. Malheureusement, ça existe. On s'en fait très bien. Il n'y a pas de souci. Mais, c'est pas une dépense choisie, c'est une dépense nécessaire. On peut pas faire autrement. C'est vrai que dans le temps, toutes les serviettes périodiques, tampons, tout ça n'existait pas. Les femmes faisaient autrement, mais elles vivaient différemment aussi. Elles partaient beaucoup moins loin de leur foyer pour travailler, pour œuvrer. Donc c'était un peu moins compliqué à gérer, même si c'était difficile. Aujourd'hui, quand vous partez de chez vous, vous devez prendre les transports en commun, rester toute la journée à l'extérieur, reprendre les transports en commun pour revenir et rentrer chez vous. Si vous n'avez pas ces moyens modernes pour vous protéger, c'est pas faisable, c'est pas compliqué, c'est pas faisable. C'est bien pour ça que vous avez des étudiantes ou des femmes salariées, enfin des femmes qui travaillent, qui ne peuvent pas aller travailler si elles n'ont pas la possibilité d'avoir des protections périodiques. Donc vous avez des élèves qui ratent les cours et vous avez des dames qui ne vont pas travailler parce qu'on ne peut pas faire les deux, c'est pas possible.
Exactement. Mais j'ai envie de vous demander, vous faites bien de parler des jeunes, quels sont les publics les plus touchés par cette précarité, si je puis dire ? Je vais me tourner vers vous, Marie-Ange.
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est tout public. Malheureusement, la précarité aujourd'hui en France, elle touche absolument tout le monde. Là, on parle des femmes, mais ça n'épargne personne. Maintenant, c'est vrai que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, j'ai quand même tendance à penser un peu plus aux plus jeunes, qui n'ont pas forcément accès et n'ont pas forcément les connaissances que nous, en tant que femmes mûres, matures, on a une expérience de la vie, de notre corps. On sait qui sont les intervenants extérieurs qu'on peut solliciter pour obtenir de l'aide, pour obtenir des réponses. Les plus jeunes n'ont pas tout ça. Et c'est pour ça que, comme on le disait tout à l'heure, et c'est très bien qu'au niveau de la collecte d'Andrézy, c'est vraiment super que des jeunes garçons aient participé. Il faut vraiment ouvrir le dialogue. Ce n'est pas quelque chose qui doit rester tabou. Les jeunes filles doivent pouvoir aller à l'infirmerie de leurs établissements, doivent pouvoir en parler, même avec une surveillante, peu importe, ou un surveillant. Mais il faut qu'elles puissent en parler et accéder et à l'information et aux produits dont elle a besoin. Donc moi, j'aurais tendance quand même à penser que les plus fragiles à ce niveau-là, c'est quand même les plus jeunes. Alors ça peut toucher des collégiennes comme des lycéennes, comme des étudiantes en faculté, etc. Mais voilà, un public qui va être moins averti sur le sujet et qui aura peut-être plus peur d'en parler, qui sera... Voilà, pour moi, il faudrait vraiment... Je pense que si déjà on éduque les plus jeunes tout simplement à considérer que les règles et ce qui arrive aux femmes, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est quelque chose dont on peut parler, etc. Là, on sera tous vraiment, femmes comme jeunes filles, sur un pied d'égalité, on pourra accéder aux mêmes choses.
C'est ça, tout à fait. C'est un abri que vous partagez, Sabrina Burnier ?
Tout à fait. Et les jeunes sont aussi en période d'apprentissage. Ils doivent apprendre à gérer leurs besoins, quel que soit le type de besoin. Et comme on disait tout à l'heure, les règles, ce n'est pas un choix, c'est un besoin. Donc ça fait partie aussi de l'apprentissage, donc une difficulté aussi supplémentaire pour les jeunes.
C'est ça, une difficulté supplémentaire, comme vous avez très bien dit. Et justement, quels effets ça peut engendrer sur leur vie à ces jeunes, justement, cette difficulté supplémentaire ? Laurence Alévi ?
Ah bah alors, ne pas pouvoir aller en cours, ça parle de soi-même, c'est quand même extrêmement pénalisant. Ne pas pouvoir sortir travailler pour compléter ses fins de mois quand on est étudiante, c'est quand même très pénalisant. C'est vraiment pénalisant dans le quotidien. C'est pénalisant financièrement, mais c'est pénalisant socialement, c'est pénalisant culturellement, enfin, c'est pénalisant à tous les niveaux. Personnellement, psychologiquement, là aussi, c'est quand même assez lourd à porter, puisque, comme on le dit toutes, on n'a pas choisi. Enfin, voilà, c'est la nature qui est comme ça. Donc, on comprend bien, par exemple, qu'une personne handicapée, qui est handicapée de naissance, donc c'est pas de sa faute non plus, c'est la nature qui a fait qu'elle ait telle ou telle difficulté à faire telle chose, et on essaye de mettre des choses en place pour l'aider. Pas toujours tout, mais on essaye. Là, c'est aussi pareil. Certaines, c'est vécu comme une forme de handicap à la limite, puisque elles n'ont pas choisi, mais elles peuvent pas lutter contre. Et là, pour le coup, rien n'est fait. Enfin, rien n'était fait, parce qu'il y a l'air d'y avoir des petits mouvements là. Ça a l'air de vouloir changer, et il faut que ça change. Faut pas que ce soit un handicap.
C'est ça, tout à fait. C'est un avis que vous partagez, Marie-Ange ?
Absolument. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que, comme mes deux collègues qui sont là, je suis d'accord sur le côté complètement. J'ai pas envie de dire qu'on subit cette période-là, mais c'est un petit peu ça. C'est quelque chose. Je reprends la phrase. On peut pas lutter contre. C'est pas un choix. C'est pas une dépense qu'on fait par choix. C'est pas quelque chose qu'on vit même par choix. Même si en tant que femme, on est tout à fait consciente, que les règles sont quelque chose de très naturel et que. Mais ces règles peuvent engendrer des difficultés, déjà engendrent, comme on le dit depuis le début, un coût, et effectivement peuvent engendrer du coup fatalement une précarité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit financière. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui se dit depuis tout à l'heure.
On va rester sur la question du coût, parce que justement dans mon introduction je disais qu'en moyenne pour une femme ça représentait dans une vie entre 8000 et 23 000 euros. Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît excessif ou près de la réalité ? Je me tourne vers vous, Sabrina Burnier.
C'est certainement la réalité. Ça fait partie du quotidien. Donc, lorsqu'on fait nos courses et qu'on n'est pas forcément touché personnellement par la précarité, on ne réfléchit pas. On est dans l'obligation de faire ses achats. Donc, on va acheter, on ne regarde pas forcément les prix. Après, malheureusement, quand on est touché par la précarité, il faut faire des choix. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va regarder quel est le moyen le plus adapté ou qui va être plus durable dans le temps et axer nos choix par rapport à cette précarité.
Une précarité encore une fois, mais est-ce qu'on peut dire que le contexte sanitaire actuel a accentué, a augmenté les effets de cette précarité chez les femmes ?
Le contexte sanitaire actuel a augmenté la précarité de tout le monde, en fait. Enfin, de toutes les personnes qui étaient déjà un peu au bord de la précarité ou dans la précarité, tout simplement parce que l'emploi a été pénalisé. Donc, moins d'emploi, moins d'argent, précarité financière, et on économise sur ce qu'on peut et sur ce qu'on pense, dont on peut se passer. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre manger et acheter des serviettes périodiques, je vois pas qui va se poser la question. Alors maintenant, il y a à réfléchir sur les nouvelles possibilités de protection menstruelle. C'est vrai que jusqu'à présent, enfin moi j'ai toujours connu, j'ai 53 ans, 2, non 3 je crois, bientôt 3, voilà, 53 ans, j'ai toujours connu moi, les serviettes périodiques, les tampons, enfin voilà, ça se trouvait partout quand j'ai commencé à avoir mes règles. Je n'ai connu que ça. Aujourd'hui, à la fois pour des questions écologiques, mais aussi pour des questions de coût, parce que c'est vraiment un coût financier bien moindre. On a remis en place, on a recréé, certaines entreprises l'ont fait, des culottes menstruelles.
C'est ça.
Qui sont donc à usage multiple, puisque le but c'est donc de les laver, comme on peut maintenant pour les bébés aussi avoir des couches lavables, comme c'était dans le temps, Mais facilement lavables, prises en charge, voilà. Donc ça c'est déjà une première chose. Ça peut être intéressant aussi de faire connaître ces produits-là, d'en faire la démonstration entre guillemets, surtout au niveau du lavage, parce qu'on a du mal à appréhender la question, on se dit mais je vais pas mettre ça avec le reste de mon linge, enfin comment ça se passe, enfin voilà. Donc et vraiment clairement expliqué, vous voyez quand je suis allée voir sur les culottes menstruelles, à aucun moment il n'explique comment on lave ça.
D'accord.
Donc on part du principe qu'il faut le mettre avec le reste du linge, et j'avoue, c'est vrai que moi-même, j'ai une petite appréhension à le faire. Donc voilà. Mais il existe aussi les cups. Alors les cups, en fait, c'est un réceptacle qui permet donc de récupérer le flux menstruel, hein, bien entendu. Alors là, par contre, vous en achetez une pour toute votre vie, hein, ça coûte en moyenne entre 30 et 50 euros, suivant la qualité du produit que vous achetez et la nature du produit. Mais c'est un one shot, en fait. Voilà. Par contre, ça nécessite de connaître un peu son corps, de savoir l'appréhender soi-même. Donc c'est vrai que pour les plus jeunes, mais pour des femmes plus mûres qui se connaissent très bien, et voilà, ou les dames qui ont déjà mis des tampons, enfin voilà, oui, ça reste quelque chose de tout à fait faisable. Et là, il y aurait peut-être moyen que soit des CCAS qui connaissent quand même les foyers les plus en précarité, ou la sécurité sociale, je ne sais pas, enfin comment ça peut fonctionner, prennent en charge le coût d'une cup, enfin pas par femme, hein, dans la par famille femme, évidemment, ouais. Parce que des fois on peut avoir nos règles en même temps, donc voilà, et c'est quand même un coût moindre, c'est achetable une fois, et ça permet vraiment de pouvoir vivre.
Tout à fait, mais justement on aura l'occasion dans la deuxième partie de l'émission de revenir sur tous les dispositifs qu'on peut mettre en place pour aider justement ces femmes, mais j'ai envie de vous demander, on parle beaucoup de la question financière, forcément c'est le nerf de la guerre, mais on parle pas assez du côté santé, parce que si je dis pas de bêtises, cette précarité menstruelle peut avoir des répercussions sur la santé. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques répercussions, Marie-Ange ?
Alors, effectivement, moi pour revenir juste rapidement sur la question que vous avez posée juste avant, moi ça me paraît excessif le coût que vous avez annoncé, mais je ne pense pas qu'il soit irréel. Mais effectivement, ça me paraît excessif. Du coup, je me dis que c'est un énorme budget. Mmh. Maintenant, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des femmes qui ont des règles extrêmement abondantes, hein, même des jeunes filles, hein, qui ont des règles très, très abondantes, qui, comme le disait Laurence, ne vont pas aller en cours parce qu'elles ont peur d'être tachées, elles ont peur d'avoir un accident, etc. Puisqu'on appelle ça un accident, hein, ça ramène toujours à quelque chose d'assez négatif.
C'est disons des choses, oui, tout à fait.
Voilà. Et effectivement, ça me paraît vraiment être un coût exorbitant. Mais effectivement, des femmes ont besoin de beaucoup de protection maintenant au niveau de la santé.
Parce que là, on parle sur toute une vie. C'est ça l'effet. Oui.
Absolument.
Qu'il faut prendre en compte.
Absolument.
Aussi.
Oui, mais c'est quand même c'est vraiment énorme.
Ah oui.
Parce que quelque part, si vous regardez bien, qui, d'autant plus en étant en précarité, qui, même sur toute une vie de travail, arrive à mettre 20 000 euros de côté ?
Je viens de faire le calcul. Hein. On a en général, c'est vrai que pendant 42 ans en moyenne, j'ai pris seulement 8 000 euros. Hein. Et si on divise 8 000 par 42, on tombe sur 190 euros. Hein. À mon avis, on est bien en dessous de la vérité avec 8 000, parce qu'on en a pour plus de 190 euros par an.
C'est
hein,
ça.
Du coup. Donc en effet, on est plutôt du côté des 23 000. Et dit comme ça, sur un montant global, c'est en effet...
C'est absolument énorme.
Ça paraît incroyable.
C'est absolument énorme, parce que même sur toute une carrière, même sur, imaginons, quelqu'un qui travaille toute sa vie, vous avez beaucoup de gens qui auront des difficultés à mettre 20 000 euros de côté. Et ces 20 000 euros, les femmes en tout cas, sont dans l'obligation dans leur vie de les dépenser.
C'est ça, tout à fait.
Donc ça représente quand même un coût énorme.
Sans compter le coût que peut représenter justement la santé.
Absolument, la santé, on parlait de l'endométriose, des médicaments qui peuvent venir s'ajouter, des règles douloureuses même, tout simplement, avec des médicaments qui s'ajoutent pour contrer ces effets, c'est
oui.
Un coût supplémentaire. Et,
la santé psychologique aussi.
Absolument. Il y a aussi la santé psychologique dans le sens où le fait de ne pas en parler. Vous parliez tout à l'heure éventuellement de dépression, de choses comme ça.
L'exclusion sociale, toutes ces choses-là.
D'exclusion, ouais. Parce que même on parlait des cours, on parlait du travail, mais on peut parler même des loisirs, hein, tout simplement.
Oui.
Sortir avec ses amis, etc. Quand on a, quand on n'est pas à l'aise, quand on n'a pas de quoi se protéger, etc. Quand on a peur d'être dans une situation un petit peu gênante. Voilà, c'est de l'exclusion totale et ça peut avoir ces répercussions-là. Et alors, moi, j'aimerais aussi parler, justement, toujours pour revenir à la précarité financière, les femmes qui vont avoir des difficultés à obtenir ces produits, une femme qui va garder ou une jeune fille qui va garder sa serviette ou son tampon toute la journée, par mesure d'économie, c'est un syndrome du choc toxique quasiment assuré.
C'est ça, tout à fait.
Voilà, et ça peut aller très très loin au niveau de la santé, ça peut avoir des répercussions très graves, puisqu'on a vu des cas de jeunes filles qui se sont retrouvées avec des membres nécrosés, avec des amputations. Ça peut aller vraiment très très loin, puisque ça empoisonne le sang. Et donc effectivement, c'est très très grave qu'une femme aujourd'hui, en tout cas en France, ne puisse pas accéder à des protections et se protéger correctement et ne pas mettre sa santé en danger, ni sa vie sociale ou sa vie professionnelle.
Tout à fait. C'est un sujet très intéressant que vous lancez là. Et je pense qu'on va commencer notre deuxième partie sur ces effets et cet impact sur la santé. Mais avant, on va devoir marquer une coupure musicale. Et juste avant, j'ai envie de vous tester votre culture musicale. Si je vous dis « This is a woman's world, this is my world », vous me dites ?
Néné chérie, woman.
Parfait. J'aurais pas dit mieux. C'est très bien. Donc on se retrouve juste après pour la seconde partie de l'émission. A tout de suite.
On en parle. Sur LFM.
11h30 sur LFM Radio 95.5. Vous êtes toujours sur On en parle, l'émission qui décortique les sujets de société. Aujourd'hui, on parle de la lutte contre la précarité menstruelle. Nous sommes toujours en compagnie de Laurence Alavi, première adjointe à la mairie d'Andrézy, déléguée à la santé, aux seniors, au handicap et à la solidarité. Nous sommes en compagnie aussi de Marie-Ange de Castro, responsable de communication à l'association Rider Family Life, et Sabrina Burdi, trésorière de cette même association. Mesdames, vous allez toujours bien ?
Très bien, merci.
Très bien.
Super, donc là on a lancé un sujet vraiment intéressant, on parlait des effets justement sur la santé, j'ai envie de revenir dessus. Donc je vais vous redonner la parole, Marie-Ange.
Oui.
Est-ce qu'on peut revenir sur les effets, parce qu'on a beaucoup parlé de la question financière, forcément, c'est le nerf de la guerre, mais j'ai envie de revenir sur l'impact que ça peut avoir sur la santé. Vous commenciez à esquisser le sujet juste avant, donc on va reprendre sur ça.
Après, sur la santé, il y a des impacts qui peuvent être complètement extérieurs à la précarité, qui vont être, et ça c'est un impact qui peut y avoir sur n'importe quelle femme. Ça va être des problèmes d'anémie, de choses comme ça, qui sont dus aussi aux règles, au fait de perdre du sang tout simplement, de faire des carences en fer. Donc ça impacte aussi dans le sens où anémie égale traitement,
c'est ça.
C'est encore quand même un coût. Et comme je le disais tout à l'heure, par souci d'économie, certaines personnes, soit qui ne sont pas informées, soit qui vont quand même prendre le risque, parce qu'elles n'ont pas le choix, vont porter une protection périodique toute la nuit ou toute la journée, et en sachant que maintenant c'est inscrit même sur les boîtes de ces produits effectivement c'est dangereux, le produit, la protection doit être renouvelée régulièrement pour ne pas causer le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome du choc toxique.
C'est ça, justement en off vous nous expliquez les conséquences que ça peut entraîner, on peut revenir dessus ?
Oui, absolument. On a eu des exemples de jeunes femmes qui, par rapport à ce problème-là, pour en plus qui ont été très honnêtes, qui l'ont dit, qu'effectivement elles portaient leur protection périodique soit sur une durée trop longue dans la journée, soit elles gardent un tampon la nuit ou autre, et qui se sont retrouvées effectivement amputées d'une jambe ou des deux. Enfin, ça peut aller très très loin, ça peut être très très grave, c'est un empoisonnement aussi du sang, etc. Ça peut vraiment aller très très loin.
Mais comment expliquer qu'à notre époque, de tels événements aussi graves ne soient pas assez encore à suffisamment mise en avant? Je vois à peu près de quoi vous parlez, notamment la youtubeuse, mais on a l'impression qu'il y a un manque d'information. Est-ce que c'est le mot? On peut dire qu'il y a un manque d'information sur les dangers que cette précarité peut engendrer. Je me tourne vers vous, Sabrina Burny.
Alors, il faut quand même avoir conscience qu'avoir ces règles aujourd'hui, c'est encore perçu comme honteux. C'est aussi un sujet que les femmes ne maîtrisent pas, ni quand ça arrive, ni le lieu, ni l'endroit, ni l'heure. C'est aussi compliqué quand on n'a pas la maîtrise de soi-même. Donc, je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, le sujet est encore compliqué et tabou, même si on avance, on communique de plus en plus, mais pas suffisamment pour casser cette honte de ce sujet.
Mais j'aime bien justement, et je vais rebondir sur le terme de tabou. On a l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société, les règles entre guillemets, bien sûr, sont l'un des tabous les plus ancrés, notamment chez les hommes. Est-ce que c'est une réalité que vous constatez, Laurence Alavi ?
Alors, que le tabou soit ancré chez les hommes, chez les plus vieux peut-être, chez les plus jeunes, je pense que ça bouge vraiment beaucoup. Chez les hommes qui sont mariés, ils savent ce que c'est quand même.
Donc, au bout d'un moment.
Ils font avec, oui. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui reste encore tabou, mais il reste même, je vais vous dire franchement, tabou même, on parlait de santé. Moi, mon médecin m'a jamais demandé comment se passaient mes règles, mon généraliste. Surtout qu'on ne trouve plus de gynécologue, maintenant on est obligé de voir tout ça avec son généraliste. À aucun moment, quand ma fille a été sur le point d'être réglée, il n'a abordé le sujet. C'est pourtant quelque chose, ils sont quand même bien au courant. Un médecin généraliste ne va jamais aborder ça avec ses patientes. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu. Quand même, c'est une question à poser. Et c'est vrai que quand vous rencontrez cette difficulté, même les femmes, on a tendance à se dire « Non, ça, il faut que j'en parle à une gynécologue. » Enfin, ou à un gynécologue. Ou potentiellement, maintenant, à une sage-femme, puisque c'est à peu près les seules soignantes pour cette partie-là du corps qu'on arrive encore à trouver dans nos régions. Donc, vous vous dites « mon généraliste, ça ne vous vient même pas à l'idée. » Mais à lui non plus. Et peut-être devrait-il se saisir de ce problème et poser des questions. Il serait peut-être surpris parfois des réponses. Donc oui, c'est aussi un problème médical et de société, parce que même les médecins ne pensent pas à poser la question.
Donc un problème médical, un problème de société, un problème de mentalité surtout.
Oui.
Mais est-ce qu'on peut dire que quelque part, tout simplement, notre culture populaire ne parle pas assez de ce sujet, qu'il y a un travail en termes d'information qui devrait être fait ? Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Ange de Castro ?
Alors, moi, je pense que, comme le disait Laurence, les mentalités évoluent. C'est vrai que moi, quand, par exemple, j'étais collégienne, c'est un sujet qui a pu être évoqué, il a pu y avoir... Alors, c'est pareil, hein, parce que au moment d'évoquer les règles, c'est toujours une espèce de stage de sensibilisation. On a l'impression qu'on parle de quelque chose d'un peu radioactif. Donc, ça reste quand même toujours... C'est comme le fait de dire « je peux pas aller en cours, je risque d'avoir un accident ». Il y a toujours, en fait, une connotation négative. Même les femmes entre elles, hein, quand on en parle quelque part, c'est pas quelque chose de glamour, c'est pas quelque chose dont on a envie de parler. Il y a toujours quelque part quand même ce tabou. Maintenant, c'est vrai que les jeunes filles comme garçons, hein, vont peut-être, effectivement, moi j'ai l'impression quand même d'avoir qu'ils ont une mentalité qui évolue, ils vont peut-être en parler un petit peu plus facilement, mais comme il y a toujours quand même effectivement ce tabou générationnel qui est un peu transmis comme ça, on va pas en parler non plus ouvertement, ils vont pas forcément trouver, en plus, d'autant plus en ce moment avec la crise, avec les élèves qui sont en distanciel, etc. Alors là, trouver une infirmière, aller en parler à l'infirmière du collège ou du lycée, c'est très compliqué, les intervenants extérieurs sont très peu accessibles du fait du contexte sanitaire. Donc voilà, après la chance que vont avoir nos jeunes, c'est effectivement d'avoir Internet, ce qui est une chance comme ça n'est pas une non plus, ouais. Puisque sur Internet, on a un peu tout, hein. Donc ils vont avoir de très bonnes informations, ils vont avoir des sites vraiment bien construits, bien éclairants, comme ils peuvent aussi avoir des informations complètement fausses, incomplètes, etc. Donc c'est aussi à double tranchant Internet, même si ça peut aider. Mais c'est vrai que de ce fait, ça reste quand même assez tabou.
D'où le besoin d'une communication officielle, en fait, hein, pour aussi casser toutes ces mauvaises informations qu'on peut trouver sur le net aujourd'hui. Après, il faut quand même bien avoir en tête que les règles, on n'en fait pas une discussion entre copains et copines. Ça reste encore un sujet
toujours tabou.
Difficile. Mais on a quand même pu constater une prise de conscience, aussi bien des hommes, même des jeunes, lorsqu'on a fait notre récolte de dons lors de la journée de la femme, puisqu'on a quand même énormément d'hommes de tout âge qui nous ont fait des dons lors de cette journée.
Bah justement, vous faites bien, ça va être l'occasion de parler des différentes récoltes que vous avez toutes les trois organisées, et on va revenir justement sur cette évolution des mentalités. Donc vous avez toutes dit qu'il y avait davantage d'hommes et de jeunes. Est-ce qu'on peut dire que quelque part la clé pour lutter contre cette précarité, c'est l'information et la communication? Je me tourne vers vous.
Alors la clé, oui, c'est l'information et la communication. Pour revenir juste un tout petit peu en arrière, on compte sur les mères pour former leurs filles. Encore faut-il que les mères soient bien informées. Il serait peut-être utile que la sécurité sociale, comme elle le fait pour les diabétiques dont je suis, nous sommes suivis, on reçoit des courriers assez fréquemment pour nous informer, pour protéger notre santé. Peut-être que si la sécurité sociale envoyait un courrier à chaque mère de famille en lui expliquant tous ces problèmes-là, au moins, elle serait informée, elle pourrait le traduire à leurs filles. Donc voilà, ça c'était une première chose. Maintenant, pour ce qui est des collectes, hein, qui était votre question, je crois.
Bah, c'était de revenir justement sur cette évolution, le fait que par exemple sur la collecte d'Andrézy...
Oui, donc en effet, sur la collecte d'Andrézy, donc cette collecte c'est le CMJ, donc le Conseil Municipal des Jeunes, qui l'a décidé, qui l'a géré totalement, qui est rentré en relation avec justement l'association dont on entendait une des fondatrices tout à l'heure, donc MAY. Et en effet, ça a été porté autant par les jeunes garçons que par les jeunes filles. Et sur le stand, il y avait autant de jeunes garçons que de jeunes filles. Et les garçons, enfin, quand moi j'y suis passée en tout cas, étaient même en avant. Là, pour le coup, c'est eux qui étaient à la récupération des produits et étaient très, très à l'aise avec le sujet. Donc c'était quand même très, très bien. Et je ne vous cache pas que je me suis rapprochée de l'un d'entre eux entre ce jour-là et aujourd'hui pour avoir aussi des informations, puisqu'ils s'étaient renseignés, ils ont fait une exposition. Enfin, ils ont fait tout un travail hein, autour de ça et autour de l'endométriose aussi d'ailleurs. Donc oui, ça change franchement. Et je pense que quand des garçons voient d'autres garçons être plus à l'aise et en parler, ça va aussi les libérer.
C'est ça, tout à fait. Mais ça me permet de vous demander quelles sont les solutions, les dispositifs mis en place par le gouvernement ou des associations pour lutter contre cette situation justement. Je me tourne vers vous, Marie-Ange.
Là, par rapport aux associations, comme la nôtre, par exemple, ou comme la collecte qui a été faite sur Andrézy, déjà, c'est à nous aussi, justement, hein, d'aller au-devant de ces problèmes-là, en tant que simple citoyen, déjà, que citoyenne, là, pour le coup. On connaît ces problèmes, on sait On sait comment fonctionne le corps de la femme, hein, tout simplement, et on sait quels problèmes peuvent être engendrés par ça. Je pense que déjà, nous, en tant qu'association, effectivement, on peut, comme le disait ma collègue, libérer la parole, en parler un peu plus ouvertement, même si, comme le disait Sabrina, elle a tout à fait raison, c'est pas quelque chose dont on a envie de parler comme ça à table, mais c'est quelque chose, si on doit l'aborder, on doit pouvoir l'aborder. L'aborder naturellement, sans que ce soit gênant pour qui que ce soit, ni même pour un homme qui serait là et qui pourrait être tout à fait informé également. Voilà, donc déjà nous en tant qu'association c'est ça, c'est ensuite évidemment venir en aide, comme on l'a fait. Donc d'ailleurs à ce sujet, si vous me le permettez vraiment rapidement, je voudrais vraiment remercier Carrefour Market de Freneuse, Intermarché de Freneuse qui nous ont permis de nous installer dans leurs entrées et de solliciter leur clientèle. Un grand grand merci justement à leur clientèle qui sont passées, qui ont quand même, qui nous ont permis de faire une vraie belle collecte en donnant justement ces produits. Donc justement, on a pu constater à ce moment-là que beaucoup d'hommes, même des hommes qui étaient seuls, hein, qui n'étaient pas accompagnés de leurs épouses, même des jeunes gens, se sont arrêtés, ont écouté un petit peu, justement, nous ont écouté parler de cette cause et ont été sensibilisés, ont été touchés et ont participé. Donc on souhaite vraiment remercier tous ceux qui nous ont permis de procéder à cette collecte, aussi bien les enseignes que la clientèle elle-même. Et puis voilà, c'est une belle évolution. On voit que les mentalités évoluent et c'est très bien. Mais là, comme le disait Sabrina tout à l'heure, il faudrait vraiment un vrai engagement beaucoup plus officiel. Voilà, éventuellement, là, on commence à entendre parler de protection périodique qui pourrait, les étudiantes pourraient y accéder gratuitement.
Vous faites bien d'en parler, ça me permet de faire un pied. Bah, je vais me tourner vers Sabrina. Est-ce qu'il y a des dispositifs mis en place par le gouvernement justement pour aider à lutter contre cette précarité?
Ça commence surtout auprès des écoles,
c'est ça.
Donc qui s'adressent vraiment aux jeunes. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste la responsabilité du gouvernement, mais c'est aussi de l'individu. Chaque personne a sa part de responsabilité sur la précarité menstruelle.
Pour ce qui est de ce qui semble être dans les tuyaux au point de vue de l'État, il y a en effet au niveau du ministère de l'Éducation nationale l'annonce de la mise en place au niveau des études universitaires et enfin dans le supérieur en général de distributeurs de protection périodique qui, je suppose, se trouveront dans les toilettes pour femmes, voilà, dans des espaces bien spécifiques où elles pourront discrètement aller s'approvisionner. Et puis plus généralement en France, dans certains départements, il semblerait qu'un autre ministère, mais je ne sais lequel, si c'est la santé ou le ministère attaché aux droits des femmes, je ne sais pas, l'un de ceux-là en tous les cas, pareil, mettre en place des distributeurs gratuits dans les espaces publics. Alors je suppose que là aussi ça va plutôt se situer dans les toilettes des femmes, dans les gymnases, dans les mairies, enfin vous voyez, dans ce genre d'endroits publics et dans les parties où les dames pourront voilà, tranquillement et simplement s'approvisionner gratuitement. Ce sera en effet une très bonne chose. C'est mis en, ça devrait être mis en test, et voilà, après aussi il faut que ce soit su,
parce que mis en test, sur la question bien, de l'information et voilà, de la communication à ce sujet là
voilà, faut que ce soit su, sinon ça va rester dans les distributeurs, hein, donc c'est pas le but,
et personne n'aura accès à l'information.
Voilà.
Parfait, très bien. Écoutez, je vous propose de passer à la dernière partie de l'émission, la rubrique M'en parle pas. On se retrouve juste après le jingle. Parfait, donc bienvenue dans la rubrique M'en parle pas, la rubrique où on revient sur un stéréotype, un préjugé ou une idée reçue que vous ne souhaitez plus entendre par rapport à la précarité menstruelle. Je vais commencer par vous, Laurence Alavi.
Alors, la précarité menstruelle en soi, pas forcément, mais par rapport aux règles en général, on entend souvent « oh, les règles, c'est sale ». Non, les règles, c'est pas sale, c'est naturel. Les règles, si vos mamans n'en avaient pas eu, vous seriez pas nés. Hein, voilà, donc c'est une nécessité biologique. On ne peut pas ne pas les avoir. Donc voilà, donc il faut se retirer ça de la tête. Les règles, c'est naturel, tout comme voilà, n'importe quel autre souci sur le corps, souci ou voilà, chose qui arrive sur le corps, c'est naturel. Donc on n'ira pas contre. Il faut se retirer cette idée que les règles, c'est sale. C'est pas sale.
C'est ça, tout à fait. À vous, Marie-Ange.
Alors moi, le cliché que j'aimerais qu'on arrête donc de véhiculer par rapport aux règles, c'est que c'est un problème de femme. Puisque, bon, après, aujourd'hui, un couple peut être composé de deux hommes, hein, de deux femmes, etc. Mais même pour les jeunes hommes, si plus tard ils sont en couple avec une femme, ce sera leur problème aussi. Ce sera le problème de leur femme, ce sera un budget commun. qui servira à acheter des protections périodiques, etc. Donc ce sera également, ça fera partie des choses qui feront partie également de sa vie. Donc c'est un problème qui sera le problème d'une femme comme d'un homme s'ils sont amenés à être en couple. Voilà. Donc ce n'est pas un problème de femme, c'est un problème de société. On doit tous en parler, on doit tous pouvoir en parler. On doit accéder à des médecins, on doit accéder à des associations qui peuvent informer, qui peuvent délivrer des produits si nécessaire à des personnes qui sont dans le besoin. Voilà, donc c'est un problème de société, ça nous regarde tous.
D'accord, donc c'est pas qu'un problème de femme, un problème de société. Et je vais terminer avec vous, Sabrina Burny.
Mais de mon côté, c'est plutôt dire aux jeunes filles de ne plus voir les règles comme une injustice, mais plutôt comme un atout. C'est grâce à vos règles que vous pourrez un jour devenir maman à votre tour.
Magnifique, j'allais vous demander un mot de la fin, mais là je pense qu'on va finir sur ça, la citation est superbe, vraiment bravo. Donc c'est déjà la fin de l'émission, vous l'aurez compris, mais pas de panique, on se retrouve la semaine prochaine à 11h pour un nouvel épisode de On en parle. En attendant, vous retrouvez de midi à 13h la pause actu, votre plein d'informations locales, et de 16h à 19h, vous avez rendez-vous avec Alice et son live, l'occasion pour vous de découvrir les tops et les hits musicaux du moment. Et enfin, à 19h, vous avez rendez-vous avec notre nouvelle émission, le Talk. J'en profite aussi pour remercier très chaleureusement Louise Clavry de l'association Mike qui nous a aidé à réaliser cette émission, et la chargée de communication de la mairie d'Andrézy, Audrey Ruiz, qui nous a aussi beaucoup aidé. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao et bonne écoute. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci.